Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Votre commune est-elle adaptée à la pratique du vélo? Le GRAC a mené une grande enquête en Wallonie pour répondre à cette question. On vous en détaille les résultats dans un instant.
Mais d'abord, ce jeudi, un sommet sur la relance de l'industrie nucléaire se déroule à Bruxelles. Mais cette industrie est-elle capable de se réinventer et à quel prix?
Je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sarah Saadi Garcia.
À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ce jeudi, un sommet sur l'énergie nucléaire se tient à Bruxelles. Plusieurs pays misent sur une relance de l'atome comme énergie bas carbone pour aller vers une société moins émettrice de CO2.
Une ambition louable, mais qui pose une question principale. Au-delà de celle liée aux déchets radioactifs et aux dangers multiples, l'industrie européenne est-elle capable de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, plus modernes et plus sûrs? Bernard Padoan est journaliste au Pôle Planète. Il est venu en studio pour répondre avec nous à ces questions. Bonjour Bernard.
Bonjour Sarah.
Alors premièrement, que se passe-t-il ce jeudi à Bruxelles et pourquoi cet événement est-il important? Très concrètement, quel est l'objectif?
Bien, c'est le premier sommet de l'énergie nucléaire qui se tient ce jeudi à Bruxelles. Il est organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est la Belgique qui est l'hôte du sommet. Il y a 37, enfin une petite quarantaine de pays qui sont présents avec des chefs d'État, le président Macron ou le premier ministre hongrois, par exemple Viktor Orban. Et c'est une série de pays qui partagent la même vision de l'énergie nucléaire qui vont se réunir pour essayer de voir quelles solutions on peut avoir pour relancer la filière nucléaire et repositionner le nucléaire dans le cadre de la transition énergétique.
Est-ce qu'il y a justement un retour en force de l'énergie nucléaire aujourd'hui? Et si oui, est-ce que c'est surprenant? Comment peut-on l'expliquer?
Mais ça découle en fait principalement de la guerre en Ukraine, hein, avec la crise de l'énergie. L'Europe singulièrement s'est rendue compte qu'elle était fort dépendante pour la production de son énergie, dépendante de la Russie pour le gaz, on le sait. Et donc il y a un retour un peu du nucléaire comme énergie qui offre une autonomie stratégique, mais c'est aussi une énergie décarbonée, puisque grosso modo, le nucléaire émet très peu de CO2, en tout cas pendant son cycle de production. Et donc voilà, ce sont des avantages qui sont apparus alors que l'urgence climatique est là et qu'il faut trouver des solutions à côté, bien sûr, du développement des énergies renouvelables.
C'est un peu un retour en force parce que ça devenait une énergie has-been, si on peut dire.
Oui, c'est un retour en force. Grosso modo, la production d'électricité nucléaire a plafonné depuis une vingtaine d'années avec des hauts, des bas, notamment après Fukushima. Mais effectivement, c'est un retour en force qui a été concrétisé à la COP28 à Dubaï à la fin de l'année passée, où il y a eu une déclaration qui disait que le nucléaire faisait partie de la solution, hein, pour résumer en substance, et où un certain nombre de pays, des pays qu'on va retrouver pour certains au sommet ici ce jeudi à Bruxelles, ont fait des déclarations disant qu'ils avaient l'intention de tripler la capacité de production nucléaire d'ici 2050. C'est quand même un objectif qui est une barre, en tout cas, qui est placée très très haut.
Si on donne quelques chiffres, combien y a-t-il de réacteurs nucléaires aujourd'hui dans le monde et ça représente quoi en termes de production énergétique?
Il y a 417 réacteurs, enfin ça varie un petit peu en fonction des sources, mais bon, certaines sources disent 413, d'autres disent 417, voilà, disons grosso modo.
Plus de 410, quoi.
Plus de 410, moins de 420 réacteurs nucléaires en service dans le monde. Ils produisent environ un tout petit peu plus que 9% de l'électricité qui est consommée sur la planète. C'est un chiffre qui est en diminution constante, lente. Ça a été jusqu'à 17%. Là, on est retombé environ à 9,2%.
Cette relance du nucléaire, est-ce que c'est un pari? Est-on capable de construire de nouveaux réacteurs aujourd'hui? Et si oui, la technologie sera-t-elle similaire à ce qui était fait jusque-là?
C'est clairement un pari, hein, puisque c'est vrai, je parle de nouveau ici pour l'Europe et les États-Unis, disons grosso modo l'Occident. Ça fait 20-25 ans qu'on ne construit plus vraiment de réacteurs nucléaires. Il y a quelques petits chantiers, enfin petits, donc grands chantiers, mais chantiers isolés, on va les appeler comme ça, qui ont été menés ou qui sont encore menés. Il y a des exemples, justement, qui ne plaident pas en faveur de l'industrie. C'est notamment le fameux réacteur de Flamanville, le père de Flamanville en France, qui devait être construit en 5 ans, qui mettra probablement 16 ou 17 ans pour être construit et dont le budget explose. Donc, de fait, il y a clairement un vrai défi pour remobiliser les acteurs de la filière nucléaire qui a existé, hein, en Europe et partout dans le monde d'ailleurs, dans les années 70, 80, 90. C'était la grande époque du nucléaire. On a construit énormément de réacteurs. En Europe, on a construit en 20 ans 130 réacteurs. Donc, on a su le faire, mais c'est un savoir-faire qu'on a en partie perdu. On a perdu les compétences. on a perdu les industriels. Et donc, c'est toute une filière, toute une chaîne d'approvisionnement qui doit être remobilisée pour pouvoir reconstruire des réacteurs. Alors, des réacteurs, pour le moment, des réacteurs classiques, comme ceux qu'on connaît maintenant, ceux qu'on dit à eau pressurisée, réacteurs de troisième génération. Mais il y a des paris qui sont faits sur de nouvelles formes de réacteurs. On les connaît, c'est soit ce qu'on appelle les SMR, les petits réacteurs modulaires, des plus petits réacteurs, plus sûrs, qu'on pourrait construire a priori en série, en usine. Et puis alors des réacteurs de quatrième génération qui utilisent des technologies qui sont plus compliquées, des réacteurs à neutrons rapides, on appelle ça, ou à sel fondu. Voilà, c'est des technologies. Mais il faut être clair, pour l'instant, ce sont des réacteurs qui n'existent pas. Ce sont des réacteurs qui sont en cours de développement et qui ne devraient arriver que dans 10, 15 ou 20 ans, certainement.
Mais donc la filière est en train de se moderniser, de se réinventer finalement.
Oui, oui, il y a énormément de start-up qui arrivent, surtout sur ce segment que j'ai évoqué, qui est le segment des SMR, qui sont, ce n'est pas vraiment plus facile à réaliser. Ça reste quand même ce qui est le plus difficile à faire dans l'industrie humaine, peut-être avec des avions qui sont très compliqués, mais l'industrie nucléaire, c'est atrocement compliqué. Mais bon, voilà, les SMR, c'est un petit peu plus simple, qui ne serait pas moins sûr, au contraire, on nous les promet plus sûrs. Mais donc, ça mobilise pas mal de start-up. Et puis, il y a quelques acteurs historiques qui doivent évidemment se remobiliser. On pense à EDF en France ou Westinghouse aux États-Unis, sachant que par ailleurs, il y a une concurrence assez forte de la Russie qui, elle, continue à construire des réacteurs et notamment à les vendre à l'étranger. Donc, sur les réacteurs qui sont en cours de construction dans le monde, il y en a près d'une vingtaine qui sont de design russe. Et puis, il y a les Chinois qui, eux, construisent essentiellement des réacteurs chez eux. Ils vendent très peu leur technologie à l'international, mais qui sont en fait pour l'instant ceux qui tirent le secteur depuis 10-15 ans. C'est de là que vient la croissance du secteur nucléaire de Chine.
De nouveaux réacteurs, une technologie en développement, mais les vieux réacteurs dans tout ça, est-ce qu'on les garde? Est-ce que ça ne nous coûterait pas finalement moins cher?
Ah ben ça, c'est un débat évidemment qu'on connaît bien en Belgique. C'est toute la question de la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires. En Belgique, on a fait le choix d'en prolonger deux, d'où le 4 et Tihange 3 pour 10 ans. Beaucoup d'experts appellent en fait à prolonger davantage de réacteurs partout où c'est possible. C'est vrai que c'est une solution à moindre coût. Alors a priori, c'est quand même des investissements importants, un milliard sans doute pour prolonger un réacteur, mais c'est pour le prolonger 10 ou 20 ans et produire donc énormément d'électricité. Donc c'est une électricité qui reste assez bon marché, l'électricité nucléaire de réacteurs prolongés. C'est beaucoup moins vrai pour l'électricité qui viendrait de nouveaux réacteurs nucléaires, où on le sait, les budgets sont beaucoup, beaucoup plus importants et où le défi et l'incertitude sont beaucoup plus grands. Mais donc oui, beaucoup d'experts plaident pour prolonger davantage de réacteurs, ce qui permettrait en fait de compenser notamment une partie des fermetures, parce que faut savoir que d'ici 2050, si on s'en tient aux durées de vie normales des réacteurs, il y en a 270 qui devraient être éteints. Donc non seulement il faudrait construire 270 réacteurs pour prolonger ceux qu'on va fermer, plus ceux qu'il faudrait construire en plus, les réacteurs supplémentaires, pour arriver aux promesses qui ont été faites par les pays pro-nucléaires. Donc voilà, ce serait une manière d'avoir des réacteurs en moins à construire, c'est d'en prolonger un maximum avec une énergie à bas coût, entre guillemets, en tout cas qui est tout à fait capable de rivaliser avec le solaire, par exemple, qui est l'énergie renouvelable la moins chère.
Pour préciser, la durée de vie d'un réacteur, c'est quoi à peu près?
Alors, à l'origine, les réacteurs sont déjà conçus pour fonctionner pendant 40 ans. En Belgique, on en a 3 qui ont déjà été prolongés une fois pour 10 ans. Donc, on en a 3 qui vont arriver en 2025, auront 50 ans. Aux États-Unis, certains réacteurs ont déjà dépassé les 60 ans, ont même parfois obtenu des autorisations de produire pouvant aller jusqu'à 80. Voilà, les ingénieurs disent un bon réacteur bien entretenu en remplaçant les pièces qu'il faut remplacer pourrait tenir pendant un siècle. On peut en accepter l'augure, mais voilà, industriellement, en tout cas, on n'a pas énormément d'expérience sur les réacteurs prolongés, mais voilà, raisonnablement, 50 ans, on le voit en Belgique, c'est possible, 60 ans, c'est possible aux États-Unis, plus, voilà, c'est plus d'incertitude. Risqué, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra que les autorités de sûreté se penchent sur les dossiers de manière très ferme et très précise.
Cette relance du nucléaire est également une réponse directe aux besoins de décarboner, même s'il y a un danger derrière.
Oui, oui. Donc forcément, l'industrie présente le nucléaire comme une industrie décarbonée, comme une énergie décarbonée. C'est vrai. Alors, selon les chiffres qui sont communément utilisés par le GIEC, ça se situe à peu près au niveau du solaire en termes d'émissions. Donc c'est vrai, c'est décarboné. Néanmoins, il y a un problème, c'est les déchets radioactifs qui vont être dangereux pour l'homme, pour l'environnement, pendant des centaines de milliers d'années. Alors ça, c'est une toute petite part des déchets, mais ceux-là sont singulièrement dangereux et on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire. En Belgique, il y a tout un processus qui est en cours. La solution probable, c'est qu'on va enfouir les déchets à grande profondeur. Ici en Belgique, en France, enfin tous les pays suivent cette voie-là. Il y a que les Finlandais qui ont ouvert un véritable centre pour pouvoir entreposer leurs déchets. Ils sont un petit peu d'avance. Les autres pays sont encore en cours de procédure, mais ce n'est pas anodin. Qui plus est, c'est vrai que tant qu'on utilise de l'énergie nucléaire, qu'il y a des centrales, il y a toujours des risques de détournement des technologies vers le militaire. Donc ça pose des risques en termes de prolifération des armes nucléaires. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut
des
pas
risques d'accident.
Oui, et alors bien sûr, évidemment, le risque d'incident. On en a connu deux gravissimes. Il ne faut pas les rappeler. Enfin, Tchernobyl et Fukushima. Il y a des tas d'explications qui peuvent être données sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas l'endroit ici pour en parler, mais de fait, le risque de sécurité et de sûreté est réel. Donc voilà, c'est pas une énergie anodine. Il y a moins de risques, il est vrai, avec des panneaux solaires ou des éoliennes.
Merci Bernard.
Je vous en prie.
Le GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, publie ce matin la deuxième édition de son baromètre du vélo en Wallonie.
Tout citoyen qui se déplace un tout petit peu à vélo a pu évaluer la sécurité, le confort, l'écoute des cyclistes par sa commune. Et vous allez l'entendre, elles sont rares les communes wallonnes qui atteignent la moyenne. Gilles Durand, le chef du pôle planète, détaille avec nous les enseignements de cette étude. Bonjour Gilles.
Bonjour Pierre.
Le GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, publie son baromètre du vélo en Wallonie. Un mot d'abord sur le baromètre en tant que tel. Qu'est-ce qu'il mesure et qui est-ce qu'il interroge ?
Donc il mesure le ressenti des cyclistes et aussi des non-cyclistes en Wallonie. Donc la méthodologie, c'est qu'ils ont interrogé un peu plus de 10 000 personnes, dont un petit millier, 800 personnes plus ou moins, qui n'étaient pas des cyclistes réguliers. Et ils leur ont demandé leur avis sur toute une série d'infrastructures ou de services qui étaient dans leur commune. Donc un ressenti global, et puis est-ce qu'ils se sentent en sécurité quand ils font du vélo ? Est-ce qu'ils trouvent des services appropriés du style stationnement quand ils se déplacent dans leur commune ? Et globalement, comment la commune réagit par rapport à leur demande autour d'infrastructures et autres.
C'est quoi les grandes tendances, les conclusions principales que l'on peut tirer à la lecture de ce baromètre ? On précise que c'est la deuxième édition de ce baromètre.
C'est la deuxième édition, la première elle avait eu lieu en 2021, donc ici le sondage a été fait en 2023. Bon, les conclusions c'est que c'est pas terrible. La note globale sur 6 obtenue par les communes wallonnes c'est 2,6 sur 6, donc on est en dessous de la moyenne.
Si on prend toutes les communes wallonnes, une moyenne de la note de toutes les communes wallonnes.
Oui, alors par contre il n'y a que 86 communes dans lesquelles il y a eu plus de 50 répondants, donc ils ont estimé comme suffisamment représentatives. Donc 86 communes wallonnes. L'appréciation globale, c'est donc 2,6. Donc c'est vraiment pas terrible. C'est pas terrible d'autant plus que c'est encore moins bien si on prend juste en compte les communes de plus de 50 000 habitants. Donc plutôt les villes dans lesquelles, en général, il y a plus de ménages sans voiture, donc qui pourraient davantage avoir besoin du vélo. Et par ailleurs, on ne trouve aucune commune qui est dans un score qui est considéré comme excellent ou très favorable ou même favorable. On n'a qu'une commune qui est en plutôt favorable et quelques communes qui sont en moyennement favorable, mais on parle là de 4 communes, donc en tout 5 communes où c'est vaguement appréciable et tout le reste c'est en dessous.
Ça veut dire qu'il y a de nombreuses communes qui font moins bien que lors du baromètre 2021. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution ? On pourrait avoir l'impression qu'il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place pour favoriser l'utilisation du vélo et donc on pourrait se dire en passant de 2021 à 2023 on va forcément faire mieux. Eh bien non.
C'est vrai, il y a beaucoup de communes qui font moins bien. Il n'y a que 8 communes parmi celles qui sont étudiées qui font un score qui est meilleur que celui d'il y a 2 ans. Par contre, attention, je rappelle, c'est du ressenti des utilisateurs, du ressenti des cyclistes. Ça ne veut pas dire que les infrastructures n'ont pas bougé ou ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train d'être modifiées et d'être améliorées. Ça veut dire que le ressenti, lui, il régresse. Et il régresse sans doute pour deux raisons. C'est ce qu'expliquait le responsable du GRAC Wallonie. Une des raisons, c'était que c'était beaucoup de cyclistes qui étaient désormais des cyclistes très réguliers, qui utilisaient leur vélo par exemple pour aller au travail, pour faire leurs déplacements utilitaires, et que cette proportion-là avait tendance à augmenter. Or, ces cyclistes-là, ils sont plus exigeants, ils ont plus de demandes qu'un cycliste qui va faire une balade sur le Ravel le dimanche. C'est assez logique. Et comme ces personnes-là sont plus en demande, bah forcément le ressenti de tous les jours prendre le vélo et de voir qu'il n'y a pas de piste cyclable ou elle n'est pas adaptée, etc., c'est parfois un ressenti qui est plus négatif que ce qu'il pouvait l'être il y a deux ans.
On a donc ces profils de cyclistes qui changent. Ça fait une première raison pour expliquer ce sentiment, ce ressenti en diminution. La deuxième, c'est quoi ?
La deuxième, c'est plutôt la frustration parce que toutes ces mises en place prennent du temps. Même si une commune décide à un moment de mettre une piste cyclable, de réadapter un chemin, de poursuivre une connexion, entre le moment où elle le décide et le moment où ça se met en place, on a été voir des gens sur le terrain qui sont très contents de voir que des travaux commencent enfin, mais de projets qui ont été lancés il y a parfois 5 et parfois encore plus longtemps que ça. Et donc forcément, les cyclistes en 2 ans, même si des choses ont commencé à se mettre en place, leur ressenti, ça peut être juste de, en fait, rien ne change, alors qu'il y a de plus en plus de gens à vélo, et alors que moi j'ai envie de m'y mettre, alors que je l'utilise pour aller à mon travail, etc.
Si on écoute ces cyclistes frustrés, sur quel point est-ce qu'il faudrait insister ? C'est quoi qu'ils demandent de façon principale ? C'est une question de sécurité ? C'est une question d'infrastructure ?
C'est un peu tout, évidemment, l'ensemble est important, il y a la sécurité, il y a le confort des infrastructures, à partir du moment où on l'emprunte tous les jours, on a quand même envie qu'on puisse y aller, même si un jour il a plu et que en fait, c'était un chemin en terre et que c'est devenu de la boue, voilà, c'est pas pratique. Mais globalement, ce qui compte beaucoup, c'est la prise en compte de leurs problématiques. Il y a un chiffre dans le sondage qui est assez interpellant, c'est que 3/4 des sondés, ils estiment que leur commune, elle fait peu, ou pas du tout d'efforts pour le vélo, ou que les pouvoirs publics sont en gros pas à l'écoute de leurs besoins. Et ça, c'est problématique parce que même quand les communes sont à l'écoute, le temps que tout se mette en place, ça prend du temps, il faut passer par plusieurs étapes, demander des subsides, etc. Mais alors si en plus les communes, à la base, elles sont pas à l'écoute, là, ça augmente très fort la frustration des cyclistes qui se rendent compte que les infrastructures qu'ils utilisent tous les jours, elles vont pas changer, et pas changer vite du tout.
Pour illustrer cet article, vous êtes parti en reportage dans le Brabant Wallon avec votre vélo. C'était jouable ou ça a été compliqué au final de rejoindre tous ces différents endroits, de retrouver tous vos interlocuteurs en faisant tout ça en deux roues ?
Alors bon, c'est pas la première fois que je vais en Brabant Wallon, donc quand même ça a été, je me suis vaguement retrouvé. Ce qu'il y a, c'est qu'on a visé, on a été du côté de Wallin, de Jean Blou, de Chasse, qui sont une sorte d'ensemble de communes qui sont plutôt dans les moyennement favorables, donc où ça va pas si mal. Et là, justement, en fait, ce qu'ils insistaient beaucoup, c'est sur l'importance d'avoir des réseaux continus qui permettent de rejoindre des points d'intérêt. C'est de pouvoir avoir un endroit qui permet, par exemple, qu'on est à Wallin, qui est une petite commune de moins de 10 000 habitants, de pouvoir avoir un chemin sécurisé pour rejoindre la gare de Jean Blou, qui permet là d'avoir dans les services un parking sécurisé pour les vélos, et puis de prendre le train pour rejoindre d'autres villes pour aller travailler ou pour ses loisirs ou autre. Et là, donc, on a été voir un chantier dont l'idée a été lancée il y a plus de 5 ans et qui, là, les travaux sont en cours pour terminer une jonction entre deux rues qui permettent de terminer une jonction sécurisée entre le centre de Wallin et la gare de Jean Blou. Et ça, c'est vraiment ce que tout ce monde dit dans ceux que j'ai croisés. L'important, c'est de sécuriser des points d'intérêt et des chemins continus entre ces points d'intérêt. C'est très bien de mettre une jolie piste cyclable d'un point A à un point B, mais si en fait vous n'avez jamais besoin de faire le trajet du point A au point B, et que ce qui compte, c'est de rejoindre la commune, et que pour là, il faut traverser 3 carrefours hyper dangereux, en fait, la piste cyclable, là, elle ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de réussir à sécuriser l'ensemble du réseau.
On le sait, le paysage, la toponymie en Wallonie peut être extrêmement diversifié. Il y a un ressenti qui est valable dans des régions un petit peu plus rural. Dans les grandes villes, vous avez parlé de beaucoup de travaux, je pense notamment par exemple à la ville de Liège, il y a des choses qui sont mises également en place, il y a une attention qui est différente, qui est donnée aux centres plus urbains, parce que ça demande des choses différentes des communes plus rurales.
C'est ce qu'on pourrait croire, mais c'est pas toujours ce qu'on voit. De nouveau, quand j'interrogeais le responsable du GRAC en Wallonie, justement, il se désolait plutôt de voir que les communes de plus de 50 000 habitants, elles sont plutôt mal classées. C'est notamment le cas pour Liège, qui est particulièrement mal classé dans les grandes villes. Alors ça s'explique un peu de manière conjoncturelle, c'est qu'il y a les travaux pour le tram en ce moment. On comprend bien que la ville, elle a pas super envie de rajouter des travaux aux travaux pour remettre des pistes cyclables ou d'autres types d'aménagements. C'est déjà assez difficile de circuler dans Liège en ce moment. Mais c'est également vrai pour Namur, qui n'est pas forcément très bien classé non plus, et on ne voit pas énormément d'investissements, me disait-il, pour faire en sorte que le vélo soit davantage encouragé dans ce type de ville, ce qui est sans doute dommage, puisque, comme je le disais, dans les villes wallonnes, là où il y a plus de gens, c'est là aussi il y a le plus de ménages sans voiture et qui pourraient utiliser le vélo comme un de leurs moyens de déplacement.
Et on précise aussi pour nos auditeurs intéressés qu'on peut retrouver sur notre site une carte interactive qui reprend les données de ce baromètre.
Oui, vous allez pouvoir chercher dans votre commune, donc je rappelle 86 communes qui sont étudiées parce que suffisamment de répondants, et d'aller voir pour ces communes la cote que votre commune a obtenue et où elle se situe dans le classement global.
Merci beaucoup Gilles.
Merci bien.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de nous avoir écoutés, et si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À demain.